Vous écoutez
RMC. RMC, le meilleur du Super Moscato Show.
Pierre Dorian, Adrien Aygouin.
C'est le Super Moscato Show et on est ensemble jusqu'à 18h avec Adrien comme tous les jours.
Oui.
Bien entendu, on revient le lundi
22
août.
On sera là. Alors on sera également là tous les deux le avec le Marie Zévan GP le 15 août, Pierrot.
Ouais, parce qu'il y a plein d'événements en direct.
Il n'y a pas le championnat d'Europe dans tous les sports.
Toute l'actu foot aussi avec la saison qui reprend.
La Mercato, il est folle. Comme le disait ton ami Leonardo.
Ça nous promet des beaux débats d'ailleurs pour la rentrée avec Vincent.
T'as des nouvelles de Leonardo, vacances?
Ah, Leonardo, il est bien là.
Il est bien là?
Ouais, ne t'inquiète pas pour
il est parti dans de bonnes conditions, certainement.
Très bien, tout va bien pour lui.
Bravo Léo.
Alors, au programme, donc, l'avenir de l'OM dans un instant, La Rochelle et Messi dans une demi-heure, et puis le journal moyen à 16h45, Adrien.
Avec des Moscars et un peu d'histoire du sport, l'histoire de Roland Garros. Mais qui est Roland Garros? À ne pas confondre avec Antoine de Saint-Exupéry.
Voilà.
C'est la magie du Moscato Show, Pierrot.
Ce serait un peu notre spécialité de confondre les personnalités.
Ça serait dommage.
Rendez-vous à 16h45 d'abord. L'OM, l'avenir est-il radieux? Nous étions le lundi 23 mai, au lendemain de la fin du championnat de France.
Qui vient de torpiller Alexandre Nubel. Les Monégasques sont tous au sol. Le jeu,
la folie. Tout le monde le sait. Tout le monde est au fond. Tout le monde écoute RMC. Même les joueurs sur la pelouse. Le staff, André Sampaoli, le coach, les kinés, tout vous voulez. Pablo Longoria également en tribune. Folie au Vélodrome. Grâce à Aurélien Tiesseur qui annonce que Fofana égalise.
Oui, Thierry en compagnie d'Éric Dimeco. Pour une première réaction, Éric Dimeco.
Ah, il peut plus parler, le pauvre.
J'avoue qu'on y croyait, mais je croyais pas que ça allait tourner comme ça.
RMC.
Moscato, il va te le régler, le problème.
Donc Marseille avec une libération à l'ultime minute de la dernière journée de championnat. Le but de Lens contre Monaco propulse les Marseillais à la deuxième place et donc en Ligue des Champions. Sans passer par des barrages ou des tours préliminaires, ils disputeront la C1 l'an prochain.
Vous pouvez pas faire mieux.
Et quand on voit le soulagement de l'état-major et la joie qu'il y avait au Vélodrome, cette qualification change beaucoup de choses. Alors quoi exactement? C'est de ça dont on va parler. Pour Sampaoli, pour l'effectif, pour le mercato, l'avenir de l'OM est-il radieux? Vincent règle le problème.
Bah oui.
Avec vous bien sûr au 32-16 sur RMC et avec Florent Germain, notre correspondant à Marseille. Salut Flo.
Salut les amis, salut à tous.
Alors,
sachez pour la petite histoire qu'il y aurait eu un pénalty pour l'OM, puisque Madame Frappard allait le siffler. Mais comme il y a eu un envahissement de terrain, elle a même pas eu l'occasion d'aller voir la vidéo et elle savait que.
Il y avait VAR.
Il y avait VAR.
Et pénalty. D'accord. Alors, Flo.
Et un 5-0 aurait qualifié directement l'OM.
Il y a beaucoup de dossiers ouverts sur le bureau de Pablo Longoria qui, lui, contrairement à ses joueurs, n'est pas en vacances, hein.
Ah non, il y a du boulot. Alors, il y a un dossier important qui est celui du coach Roland Sampaoli. Important, mais c'est pas forcément le plus urgent. L'Argentin sera là la saison prochaine. Il l'a confirmé. Il est sous contrat jusqu'en juin 2023. Mais Longoria veut le prolonger. Il veut de la stabilité. Bon, Sampaoli, on le sait, on en a parlé avec Vincent. Ça a fait l'objet de débats. Il veut des garanties sportives. Il est quand même en position de force après cette qualif en Ligue des Champions. Donc, les discussions vont se poursuivre. Côté joueur. Alors, les dossiers majeurs. Remplacer Bouba Camara, qui part libre, il a signé aujourd'hui à Aston Villa. Le couloir gauche, selon Sampaoli, a été défaillant. Donc l'OM veut un piston gauche pour évoluer sur ce côté. Et il rêverait toujours de Tagliafico, l'Argentin de l'Ajax, qui avait été approché bien il y a quelques mois déjà. L'OM veut surtout garder Saliba. C'est l'une des priorités derrière. Saliba, ça tombe bien, veut rester, mais il appartient à Arsenal, donc il y aura des négos serrés avec le club anglais. L'OM veut aussi garder Harit, qui était prêté sans option d'achat, mais là, pour le coup, l'argent de la Ligue des Champions, bah, c'est une bonne nouvelle dans ce dossier. Et puis, en attaque, évidemment, des recrues, au moins une nécessaire, et il y a une piste chaude qui mène vers Mohamed Ali Chou, justement, le jeune Angevin. Sampaoli veut de la vitesse. Et puis, enfin, je termine, il y a deux cas emblématiques. On en a énormément parlé cette saison. Mandanda et Milik. Quid des deux hommes? Le gardien Mandanda veut plus de certitude, pas sûr qu'il reste si Sampaoli lui assure pas d'être titulaire. Et puis Milik, les relations ont été parfois orageuses, donc c'est un dossier à surveiller. Ouais. En plus des départs, Tsar, Gueye, Dieng, les offres seront étudiées. Marseille fera aussi du trading cet été.
T'as dit dégager Milik, c'est ça Vincent?
Oui, il faut qu'il s'en aille.
Avec Sampaoli, tu penses que
mais quand ça ne frictionne pas.
Ouais.
En plus, tout donne la raison à Sampaoli. deuxième.
Tu peux score
Oui. Alors après, qu'il ait raison, il y aura pas de discussion. Je crois qu'ils s'entendent pas, même pour Milik. Pour Milik, il faut qu'il aille ailleurs. C'est pas possible.
Mais il a peut-être envie de jouer la Ligue des Champions, Milik. Il y a pas 36 000 clubs qui vont l'accueillir.
Il faut qu'il accepte que peut-être Sampaoli ne le fasse pas jouer.
C'est un vrai choix.
Voilà, c'est tout. Après, faut pas venir pleurer. Il a eu un an. Faut pas dire après dans les journaux, ouais, je comprends pas, il me manque du temps de jeu.
Tu dis 40 plaques, tu parles de 40 plaques parce que c'est quand je t'avais parlé de Lille la saison, qui sont sortis du groupe, qui éliminent un 8ème de Ligue des Champions. C'était 38 millions d'euros, mais il y a plusieurs critères. Ça peut être plus ou moins.
Ça peut être plus ou moins, mais tu sais que tu vas rentrer de l'oseille. Tu sais que tu vas rentrer.
3ème, c'est rien pour l'instant, puisque c'est rien.
Tu disputes le tour préliminaire et le barrage.
Ils sont qualifiés direct, là.
Oui,
ils ont pu passer par les barrages.
C'est pour ça qu'ils touchent les 40 millions.
Donc déjà, en plus.
Les 40 millions, ce sera à la fin.
À la fin du parcours. À la fin du parcours.
Et puis, dis-toi bien, ils n'ont pas les matchs.
Sur un budget.
Et puis, ils reprennent la saison, comme tout le monde, ils reprennent pas la saison en amont. Que si tu dois faire des barrages, des tours éliminatoires.
Il y a une vraie différence entre être deuxième et être troisième.
C'est énorme. Déjà en préparation, ça veut dire que tu as 10 jours de repos et tu recommences à rebousinguer pour jouer ces matchs-là qui sont cruciaux pour la
rebousinguer, ça c'est extraordinaire. Je rebousingue, tu rebousingues.
Je pense qu'après 20 ans de Moscato Show, il y a pas mal de mots qui vont entrer dans le lard aussi.
Écoute, ce qui est curieux, c'est que à 10 secondes de prix, on n'aurait pas le même débat aujourd'hui, ce qui est la magie de cette émission et du sport. Mais imaginez qu'ils égalisent pas. Qu'est-ce qu'on dirait aujourd'hui? Je pense qu'on le tuerait sans Paoli.
Il y aurait eu pénalty pour l'OM et but.
Il y aurait eu pénalty. Il y aurait eu 5-0 de Gerson.
Qualifié. À 5-0, il s'était qualifié l'OM. Ouais. Imagine.
Je pense pas qu'on aurait tué Sampaoli.
Au goal average,
Au goal average. Non, c'est pas ce que je veux dire. C'est que
moi, les critiques n'auraient pas été les mêmes.
On sait de la fragilité qu'il y a à l'intersaison sur les recrues.
Aubacar, c'est quand même.
C'est assez. Il y a beaucoup d'incertitudes. Moi, je peux pas dire que ça. Alors, c'est chouette pour Marseille, évidemment. Ils vont démarrer la saison plus tard. Tu as raison. C'est déjà un avantage énorme. Ils vont pouvoir mieux la préparer. Ils vont pouvoir, au niveau des transferts, faire des transferts qui sont meilleurs. Mais attention, ça veut pas dire qui se meilleur, qui vont prendre. Moi, que j'entends Flo, je suis pas rassuré pour autant. Je veux dire aujourd'hui.
Après, on n'a pas encore. Aujourd'hui, au mois de mai, tu peux absolument pas présager de ce que seront les mercato des uns et des autres.
Ce que je veux dire, c'est que Marseille.
Flo, t'as parlé de Mohamed Ali Chou parce que c'est un dossier qui est déjà en cours et dont le nom a filtré.
Je préfère attendre.
Que dans un mois, on n'a absolument aucune idée aujourd'hui.
Je préfère attendre de voir le mercato, voir ce qu'ils recrutent et dire.
En soi, la deuxième place suffit pas, quoi.
Ah ben non, la deuxième passe suffit pas et puis il se joue à rien d'abord, il a failli passer la trapinette.
Déjà là c'est très bien. Prends le bonheur de te qualifier, oui, de finir second. Marseille, on t'aurait dit l'an dernier à la même époque. Après les mecs ils te font des grands raisonnements. Ah ouais, mais quand tu regardes l'équipe, il y a une belle équipe, il y a un bel effectif.
Il y a un bel effectif.
Ouais, parce que t'as les mecs qui sont révélés, t'as Guendouzi qui s'est révélé, t'as Bamadkar qui s'est révélé, Camara qui s'en va, bonsoir Clara. T'en as un autre qui s'est révélé, le petit
Le petit machin.
Il y a des bons joueurs.
Non, mais t'as des bons joueurs quand
Samir,
même.
Saliba.
Non, voilà. T'as de beaux joueurs, attention. Et l'OM est une très belle équipe.
Non, mais disais pas ça en début de saison. Te trompe pas, Guendouzi n'était pas à ce niveau.
Il y a des paris.
Babacar n'était pas à ce niveau. Saliba n'était pas à ce niveau. Non. Parce que là, on fait des réseaux. Quand tu vois les machins, tu dis que c'est mal.
Mais il a raison, dans le sens que tu finis quand même la saison avec trois joueurs internationaux qui ne l'étaient pas au début. Donc, tu juges aussi un coach sur sa capacité à faire progresser ses joueurs.
Flo, toi qui connais la maison par cœur, quand on. Parce que là, on est très cartésien, mais il y a aussi une part d'irrationnel dans les clubs et la façon de les diriger et de mettre l'argent. McCourt, il pourrait mettre plus d'argent, concrètement. Est-ce que, avec ce qui se passe samedi au Vélodrome, vous l'avez vu, McCourt, il n'a jamais été aussi heureux. T'as l'impression qu'il venait d'arriver à l'OM. C'était une ambiance incroyable.
Et au Red Lion aussi. Il a quand même terminé dans un pub avec l'équipe,
etc.
Avec des étudiants et des supporters.
Ah, mais les gueux. Est-ce que tu penses, comme lui avait dit Jean-Claude Godin lors de son arrivée, est-ce qu'il est capable de mettre plus de sous? Parce que ça, c'est irrationnel. Il pourra mettre plus s'il le décidait. Est-ce que quand tu le vois comme ça, tu te dis, ça peut basculer?
Il l'a fait l'an dernier déjà.
Oui.
Ouais, déjà, il en a mis beaucoup. Je pense que ça va être un peu plus facile de le convaincre s'il y a un dossier coup de cœur. Donc peut-être qu'il peut faire un effort supplémentaire. Il s'est quand même passé quelque chose pour lui samedi soir. C'est-à-dire qu'il a vécu ça en famille avec ses enfants. Il a vécu sa première vraie grosse émotion. Et je pense que c'était encore plus fort que l'aventure en Ligue Europa en 2018. Donc il s'est passé quelque chose qui peut-être justifie le fait qu'il ait investi. Donc là-dessus, il est rassuré. Après,
ça fait cher l'émotion.
Cartésien, là, pour le coup, il y a un projet.
mais à moyen terme, l'OM veut être très costaud quand va y avoir cette réforme de la Ligue des Champions 2024-2025. Donc c'est pas dans si longtemps que ça, c'est dans deux ans. Donc l'objectif de l'OM, c'est de bien bosser et d'être quasiment sûr de se qualifier en Ligue des Champions, en tout cas d'être très crédible dans ces années-là.
Mais ça, c'est le genre de résolution que tout le monde a.
Mais non, mais Flo, ce qu'il veut te dire, c'est que pour répondre à la question de l'investissement, s'il y a un investissement à faire, de ce que je comprends de ce que dit Flo, ça va être pour essayer d'avoir le plus de chances possible d'être en 2024-2025.
Oui, mais tu sais combien il va
être l'année prochaine ou l'année suivante. Champion tous les ans.
Oui, mais ça veut dire
d'abord tous les ans.
Réinjecter beaucoup d'argent.
Non, mais ce que te dit Flo, c'est sur un dossier en particulier, peut-être qu'il y aura plus de facilité à obtenir une petite rallonge.
Un dossier en particulier ne te permet pas de t'assurer de continuité à Ligue des Champions.
Sur un ou deux bons joueurs, c'est possible.
Je crois beaucoup à ce qu'a dit Flo, à savoir le fait qu'il était dans le stade avec sa famille et qu'il a vécu quelque chose qu'il n'avait pas encore vécu depuis qu'il est à Marseille. Et mine de rien, c'est aussi pour ce genre d'émotion et de réussite qu'il est venu. Sinon, tu te demande pourquoi il est là.
Et c'est impalpable. Donc, ça n'a pas de prix.
Ça, c'est complètement, tu l'as dit, c'est complètement impalpable. Mais vraiment,
c'est la
ferveur d'un stade. Marseille, on sait comme ça peut s'enflammer. Positivement, je parle. Négativement, ça peut arriver aussi. Mais positivement, on sait comment ça peut s'enflammer. Et je pense effectivement que quand tu es dans le stade à ce moment-là, tu sais pourquoi t'as mis les sous.
Oui, mais après, est-ce que tu vas mettre 100 millions de plus?
Après, il
ne
fera pas de folie, Denis. Voilà,
il n'y a pas de folie, c'est ce que je dis. Je comprends la ferveur qu'il y a autour du sport, autour du football. Mais après, t'es pas sûr que sa femme, en sortant, lui a dit t'as casqué 300 boules pour ça.
Et l'OM, donc, qualifié pour la Ligue des Champions. Ce sera, bien sûr, sur RMC. Ce sera des grands débats dans le Super Moscato Show. On revient tout de suite avec La Rochelle, qui est champion d'Europe. La Rochelle va-t-il enchaîner avec le top 14? On se posait la question, bien sûr, entre la finale de la Coupe d'Europe et les phases finales du championnat de France. À tout de suite.
RMC, le meilleur du Super Moscato Show. Pierre Dorian, Adrien Aiguin.
Le Super Moscato Show continue. Alors, dans une demi-heure, nous allons débattre d'Olivier Giroud. Giroud et la Coupe du Monde. Giroud pas retenu par Didier Deschamps pour la Ligue des Nations. On se pose des questions. Vincent, lui, il veut le voir. Alors, le débat, ce sera à 17h. Juste avant cela, il y aura eu bien sûr le journal moyen, un débat sur Messi dans 10 minutes, mais d'abord La Rochelle, après son titre de champion d'Europe, va-t-il enchaîner avec le top 14? C'était le lundi 30 mai sur RMC.
5, 4, 3, 2, 1, c'est gagné, c'est bon, La Rochelle est champion d'Europe.
Oui, on est évidemment ému avec vous parce que ces 5 dernières minutes, elles sont intenses émotionnellement, elles sont tellement fortes que j'imagine la libération que ça représente.
Et c'est la réussite d'un groupe, d'un collectif et d'une aventure humaine fabuleuse.
Il y a eu un petit peu de stress, de crainte parce que vous avez mis du temps à marquer, vous avez mis du temps aussi à rentrer dans ce match.
Aïe. On va tout casser là. Si on ne pète pas le boulard, ça va aller. Mais je pense qu'on n'a pas une groupe à péter le boulard. Ouais. Ça va aller. Ah, tiens, Étienne.
Avec modération.
Voilà, tout simplement, maintenant.
Il n'a pas pété le boulard.
Il t'a pas pété le boulard. Écoute, c'est tant mieux pour toi, puisque nous, on profite de toi à la radio tous les jours, du coup.
Merci.
Petite parenthèse, parce que là, on était sur du tourbo-boulard, mais comment on va le qualifier maintenant, le boulard des Rochelais, quoi?
Le boulardico, tout simplement. Mais plus.
Alors, La Rochelle donc a réussi une performance proche de l'exploit, battre le Leinster en finale de la Coupe d'Europe de rugby à 14 contre 15 pendant les 10 dernières minutes d'une intensité folle. C'est le premier titre de l'histoire du club et ça change tout, puisque l'an dernier, La Rochelle avait enchaîné deux finales perdues. Cette fois-ci, La Rochelle va-t-il enchaîner avec le titre de champion de France? 32-16 et Twitter, hashtag RMC Live. On va écouter les réactions, celles de Ronan O'Gara et Grégory Aldrit, et vous allez voir que pour le coup, ça pourrait bien tout changer, ce titre de champion d'Europe.
Dans notre profession, il y a toujours une petite histoire avec la faible mentalité de La Rochelle, mais je pense aujourd'hui, ça c'est mort. C'est Champions Cup, c'est notre niveau. On était un peu indisciplinés de temps en temps. On n'a pas reçu trop de pénalités non plus. Mais comme on a commencé cette discussion, les joueurs ont trouvé une solution. Trois essais à zéro, ça dit tout.
Le fait qu'on nous prenne de haut, c'est quelque chose qu'on adore. Mais on l'avait décidé et à la fin, ça s'est vu. C'était des joueurs qui avaient décidé qu'ils lâcheraient pas. Et quoi qu'il se passe, on voulait aplatir ce ballon. Et on l'a fait parce qu'on avait aussi l'option de prendre les points et revenir. Mais non, on voulait gagner de la plus belle des manières.
Alors, t'as entendu quand même ces déclarations assez fortes. Hein. Ronan Nogara qui dit le mental faible de La Rochelle, ça c'est mort. Et Aldrit qui nous dit, nous on aime bien qu'on nous prenne de haut, entre guillemets, personne croyait en nous.
Surtout dans ces missions. Hein.
Et on s'en est servi. Alors, vous voulez crever l'abcès tout de suite sur Yaya West ou on démarre le débat? C'est comme vous voulez, hein, après tout. De toute façon, ça arrivera à un moment.
Moi, je veux bien me compter les points.
Alors.
Mais en plus, il n'y a rien à dire, franchement. C'est juste que, des fois, moi j'hallucine quand on fait des procès à des. Comme ça, à charge. À charge. On fait les procès à charge. Mais alors, en plus, celui qui doit amener les preuves, donc, c'est faux témoin, pas possible, l'autre là. Donc, tu lui dis 63% de code machin et tout. Et ouais, mais bon, ça veut rien dire. Je vous explique. Vos stats, ça veut rien dire. Donc la preuve, encore une fois, et l'autre qui sort des stats pendant toutes les émissions depuis 6 mois. Donc les mecs, ils expliquent le foot et le rugby à travers des stats. Voilà. Donc Milik, il a mis 2 buts. Donc il compte pas ceux qu'il a mis. Non, mais c'est ça, voilà, le sport selon Adrien et Gouin.
Donc on arrête les débats d'avant match.
Mais non, mais c'est pas des débats d'avant match. Mais un mec qui joue à La Rochelle, qui fait deux finales de suite, c'est pas une pompe.
Vous l'avez fait.
Vous avez pas le droit de dire que le mec il est mauvais comme un cochon quand même.
Mauvais comme un cochon en finale l'an dernier, c'est une réalité.
Il a pas été bon sur un match, mais j'ai trouvé qu'on était juste avec ce garçon, mais gratuitement. C'est surtout que on devrait se méfier quand même, parce que
la finale nous a donné raison. C'est-à-dire que ce qui s'est passé.
Il est pas si sérieux.
Cette année, ça prouve que les trois coups de pied qu'il a passés, qui sont relativement faciles, tu ne peux pas te permettre de ne pas les mettre en finale, ce qui s'était passé l'an dernier. Point barre.
Non, mais en plus, dans le jeu, il est bon. Enfin, je veux dire, moi, j'ai été choqué de la manière.
C'est vrai qu'Adrien, il était un peu fort.
J'ai été choqué de la manière dont crépissait un mec parce qu'il a raté une finale. Ça me déconne. Oh putain, vous avez des joues quand même.
Là,
c'est facile, hein. C'est pas au mec de La Rochelle, tout le monde ne s'en soucie pas, soi-disant. Et alors, en plus, le nouveau concept, c'est quand les mecs, il est bon, derrière, donc les mecs, ils disent, Vincent le premier, c'est grâce à moi qu'il était bon parce que je l'ai piqué. Heureusement que j'ai reçu beaucoup de soutien des Rochelais ce week-end.
Les Rochelais qui voulaient tous se foutre dehors et qui l'ont d'ailleurs foutu dehors. Hein,
les Rochelais. Il va jouer à Toulon, d'ailleurs, il a été bien accueilli par un message du président. Qu'il a bien confiance.
Il dit, on le recrute, on sait que c'est pas le plus talentueux, mais.
Bref. Non, c'était génial. Après... Tu t'es régalé, Denis, Eric.
Oui. J'ai fait le match vendredi, celui-là à la télé, je me suis régalé.
Vincent, tu penses que là, ils peuvent. Ce dont on a commencé de parler avec Denis. Ils peuvent refaire un coup en top 14, du coup,
on aimerait bien. Le problème, c'est que l'émotion, et puis là, quand même, ce genre de match, c'est quand même, au niveau de, ça laisse quand même des traces, hein, parce qu'ils ont pas joué quand même contre les pêcheurs du coin. C'est pas des pêcheurs irlandais qui sont venus. Il y a gros engagement. Ils ont été obligés de les prendre à la gorge, de les prendre en mêlée, de les prendre dans le combat. C'était type féroce. Je sais pas si tu te rappelles la première action du match, balle pour Leicester. Il faut un enchaînement, et je me suis dit, aïe, ça m'a piqué. Et puis les autres ont commencé à monter très haut, à mettre la pression sur toutes les mêlées, en touche, à leur faire des groupés pénétrants, d'être au combat, les mener, les malmener devant, comme ils ont toujours fait, les avaient battus déjà, quelques temps avant. Ils les ont malmenés devant, et je pensais pas qu'ils étaient capables de les malmener comme ça devant. Quand on avait vu Toulouse il y a 15 jours, crois-moi, je veux voir ce qu'on dit que La Rochelle allait être championne d'Europe. Crois-moi, il y en a pas beaucoup, à part quelques Rochelais, bien entendu, mais même au sein des Rochelais, Ils disaient tous, il faudrait faire un exploit.
C'est un exploit, alors, c'est un véritable
après,
exploit.
Après, pour aller faire le doublé, là, il va leur manquer du gaz. C'est
mais alors
titre.
Mentalement, tout a changé, non ?
Émotionnellement, ça va être dur. Ça va être très dur émotionnellement parce que c'est une bouffée là qui arrive. Les mecs, c'est des super-héros là-bas. Se remettre en lice à partir de mercredi.
Après, c'est pareil.
On sait pas.
Pour le loup, c'est pareil. Hein. Le loup est
mais
pareil.
Je,
hein.
je,
Et je vais te dire, je vais être sincère et j'espère et je vais continuer et je vais continuer en espérant qu'ils me fassent mentir parce qu'un doublé ce serait merveilleux, bien sûr, ce serait merveilleux pour eux, pour les joueurs, ça serait extraordinaire, surtout pour notre ami Stasi, ça serait extraordinaire.
Stasi. C'est subliminal, Pierrot, Stasi.
Oui, je sais bien, mais
c'est
dimanche,
j'ai
des reportages
sur Arte. Arte, la Stasi, bim.
Pour l'instant, la Rochelle, ils sont en position de recevoir un barrage, Vincent.
Ce serait extraordinaire, mais. Mais là, quand même.
Trop de jus dépensé. Après, mentalement, moi, je sais pas, Maryse, je me dis, peut-être qu'ils étaient, entre guillemets, hein, dominés mentalement par Toulouse après les deux finales l'an dernier. Là, je me dis, après la victoire en
libération,
finale, s'ils rejouent Toulouse, il y a zéro complexe.
Tu peux être sur une euphorie. Par contre, effectivement, tu as entendu tout à l'heure, la nuit courte avant, la nuit courte après, la reprise, on sait pas encore quand est-ce que c'est, mais tu peux très bien, effectivement, le jouer sur du repos cette semaine, pas trop d'entraînement. Se refaire un peu de frais et effectivement comme tu dis Pierrot un verrou confiance qui a sauté et qui donc quelque part les gars dans cette euphorie là sont capables de battre n'importe
qui.
Qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent
pour
se qualifier
pour l'instant ils sont quatrième donc en position même de recevoir un barrage dans un stade guichet fermé. Ce week-end, il joue à Lyon. Le Loup qui a vécu exactement la même chose que La Rochelle. Mmh. Ça va être un peu à l'équipe qui va avoir le moins la gueule de bois, si vous voulez. La Rochelle peut s'imposer au Loup. On n'est pas sur un exploit de l'année si La Rochelle gagne au Loup.
Tu reçois après
un barrage. Après, l'histoire peut être belle. Hein.
Non, mais déjà, ça suffit. Hein, s'ils prennent un peu de défensif, ça suffit. Donc.
Ils ont pour l'instant toute leur troupe. Ils n'ont plus de blessés. Ils sont heureux. Il faut se reposer un peu.
Ils peuvent perdre à Lyon.
Oui, mais il ne faut pas que Lyon prenne le bonus défensif.
Ouais, attention, c'est pas pareil, Maryse. Il va falloir s'y filer parce que
c'est sûr que
Lyon,
quand tu vas à l'extérieur, quand t'es pas chez toi, c'est pas la même.
On n'en a pas parlé de Lyon, mais moi je les ai trouvés très bons, ce week-end. Oui. Donc, faut faire attention. Alors, s'ils n'ont pas besoin à tout prix, comme tu me dis, de gagner, de tout ça, ça peut-être le faire, ils peuvent se remettre en selle. Après, c'est magnifique et tout ça, ils sont portés par une espèce de truc. Après, il faut de l'essence, Maryse, dans le moteur.
Oui,
et là,
c'est vrai.
Ils ont consommé.
Ils ont balancé du carbone, là.
Il reste une journée, il y a Lyon, La Rochelle.
Parce que du coup, on te demande plus ça, toi, de demander le calendrier.
Et la semaine d'après, ce sont les barrages.
Donc là, c'est la dernière journée. Semaine d'après, barrage.
Ben ouais, ça va vite.
Donc là, ça enchaîne toutes les semaines, c'est ça?
Et après les demi.
Donc à part les deux premiers qui vont avoir 15 jours entre.
Voilà, il y a la coupure pour les deux premiers dont on ne connaît pas encore l'identité.
Et donc, on est d'accord, chaque fois, et ça s'est vérifié malgré tout, souvent l'équipe qui coupe 15 jours, quand ça arrive au bout, ils ont un peu plus de mal. C'est pas forcé. Mais toi, tu dis, il n'y a pas de règle.
Ils peuvent se faire bananer, ils peuvent gagner. Même les mecs, maintenant, ils ont peur d'avoir 15 jours. Presque ils ont peur d'avoir des coupures.
L'avantage, c'est que quelque part, leur saison est gagnée, même si jamais ça se passait mal. Donc, du coup, tu pars libéré, tu vois ce que je veux te dire. Parce qu'ils ont rapporté un Graal qui est indescriptible. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est un exploit. Et quelque part, là, si tu veux, leur top 14, quelle que soit la façon dont ils se terminent, de toute façon, ils ont réussi leur saison. Donc, c'est plus du tout la même pression. Là, je pense qu'on est plus sur comment auront-ils récupéré, comment les coachs et la troupe va gérer la préparation, le repos, la récupération de ces troupes-là. Mais je ne sais pas pourquoi, moi, je les sens bien.
Moi, je vais tourne-bouler la question, du coup. Parce que c'est vrai que c'est difficile de répondre à ces questions. Mais par contre, ça va être dur de jouer contre truc quand même.
Ah bah oui, surtout si vous parlez à domicile, déjà.
Parce que franchement, je ne sais pas dans quel état ils sont. Ils vont être mentalement, physiquement, on est tous d'accord. Mais par contre, quand tu as fait sauter le bouchon comme ça, avec tel match, ça soude. Ils sont soudés, les mecs, mais c'est. Je sais pas, moi, tu rentres sur le terrain, je pense que tu as une force naturelle, collective. Et donc, du coup, il va falloir se les taper, les mecs.
En plus,
un ouvreur qui est passé de
60%.
Un ouvreur qui est passé de 62% à 92%
de joueurs à l'auto comme ça. Je voudrais dire, mais même celle qui les a mis, je les mets, moi.
Non, mais.
De dos avec le talon.
Le gros problème qu'il y a quand tu dis ça, Vincent, c'est que toi, tu vois celle qu'il a mise facile
vendredi soir, ça se souvient tous. Mais tu n'as pas vu celle qu'il a ratée dans la saison. Peut-être qu'elles étaient à quoi, à 42 mètres, hein.
Oui, ben, attention. Oui,
parce que c'est facile de faire du 60 et du 80%. C'était que des balles dans le coin. Eh oui, ma foi.
Ce qui est sûr, c'est que j'ai jamais raté un match de la Rochelle cette année. Il était déjà champion d'Europe une fois.
Eh ben voilà. Eh ben peut-être qu'il n'aurait pas fait le même match cette année, ma foi.
Tiens, petite parenthèse. Il y a un truc que je trouve nul dans les règles de la Coupe d'Europe. Oui. Il ne peut pas arriver en championnat. Alors, même si ça arrange la Rochelle, bien sûr. C'est qu'il marque leur essai. Il reste plus d'une minute. C'est 78-45 à peu près. Et le temps de taper la transformation, il y a la sirène. Alors qu'en France, tu aurais eu le chrono se serait arrêté.
Et on joue derrière.
Ensuite, il aurait eu une minute max pour tirer sa pénalité.
Et après,
sa transformation. Il y aurait eu un dernier ballon pour le Leinster. Oui. Alors, marquer sur un dernier ballon, c'est très difficile.
Une dernière possession possible, on va dire.
En termes de suspense et même, je trouve, d'équité, c'est génial. C'est beaucoup mieux. Parce que là, tu peux pas gagner en faisant tourner le chrono. C'est pas possible, surtout avec une intensité pareille. La fin de match, elle est folle. Et si en plus, derrière, le Leinster a encore une cartouche et doit faire ce qu'a fait la Rochelle, ça aurait été encore meilleur, quoi.
En top 14, ça aurait été le cas.
En top 14, ça ne peut pas arriver cette fin de match.
Ils auraient pu demander la Golden.
Exactement. C'est une sorte de golden carotte. Du rugby.
Golden carotte. Voilà.
Mystique.
Alors. Après, ils m'ont fait péter quand même le talonneur.
Bourgarit.
Ouais, Bourgarit.
Il est très bien, Bourgarit.
Oh, il est bon, putain. Il est du gaz. Il envoie du pâté. Il est bon.
On a vu ça depuis longtemps.
Depuis 30 ans, on n'avait pas vu ça. Sincèrement, on a des talonneurs entre Marchand, le fils de Robert Marchand.
Movaca,
Chat, Aldrit, Bourgarit.
Ton pote Galtier, il est chounard quand même.
Il est chounard, l'autre. On avait pas épiché aussi
dans notre salle. Les demi-mêlées, même s'il perd du pont, il a encore des phénomènes.
Il a couillou. Il est couillou. Il est capable de te faire des matchs aussi bons que du pont.
Et si t'as un problème de talonneur vraiment, t'appelles Gaëtan Barlow, Vincent, que tu aimes bien.
Le commissaire Barlow sur la 3, quoi. Putain, ça, c'est
du Castres olympique.
Mon pont, entre deux tournages, il peut venir faire le pige, le petit Barlow.
Hugo, supporter de La Rochelle au 32-16, qui revient du vélodrome. Salut Hugo.
Hugo, quoi,
salut,
c'est curieux.
Salut les gars, ça va?
Salut Hugo.
Vous entendez bien?
Oui, très bien.
Hugo, j'appelle. Déjà, je veux vous dire que j'adore votre émission avant de vous défoncer un petit peu. Moscato, tu m'as fait rêver avec ton copain le Parisien. Denis Charvet.
Vous aussi, vous n'avez pas les Parisiens, quoi, mais c'est une maladie nationale.
Non, mais c'est vraiment vos pronostics étaient super géniaux, hein, quand même, géniaux.
Et oui, attends, parce que toi, t'as parié ton salaire que La Rochelle avait gagné, toi.
J'ai pris mes places avant, moi, j'avais réservé.
Non, des mecs qui ont pris les places avant, il y en avait 40 000 au Stade de France qui avaient pris leurs places avant. Le boulard rochelais, ça suffit.
Toulon va écraser Lyon, tu m'as dit. Toulon va écraser Lyon, Lucerne va écraser Lyon.
C'est vrai qu'on a été bon la semaine dernière.
Par contre, il y en a un qui est bon chez vous, il y en a un qui est très bon, c'est avec Dimeco, que j'adore. Pourtant, c'est un footballeur, hein, je comprends pas.
Ah, parce que t'aimes pas les footballeurs non plus, mais t'aimes pas
les footballeurs. J'adore les footballeurs.
Par contre, t'attends parce que lui vous déteste.
Il y a que les footballeurs qui connaissent les pronostics, c'est pas possible.
Non, mais les pronostics, c'est le concept même des pronostics, c'est que coup tu gagnes, coup tu perds.
Excuse-moi un truc.
Tu gagnes toujours un pronostic, toi.
Si avant la finale, t'entends quelqu'un dire que le Leinster est favori, ça te vexe.
Ça me vexe pas, mais après, il faut quand même connaître un peu les joueurs. Parce que
toi, t'avais dit que le Real Madrid allait gagner, que Toulon allait gagner la finale et que La Rochelle allait gagner.
J'aime bien le foot, mais la mentalité du
Vincent,
foot...
On est mort. Ils avaient déjà le boulard, mais là, ils sont plus sur terre.
Les gars, réveillez-vous. Par contre, il faudrait que vous changiez, que vous alliez sur Ikedia, un truc comme ça. Non, ça serait mieux pour vous, non?
Ikedia
pour Vincent. J'adore, hein, Vincent. Tu m'as fait rêver, Vincent, mais t'as été moyennasse là-dessus. Hein.
Hugo, vu que t'es pas très bon,
je le reconnais, j'ai pas été très bon, c'est vrai.
Voilà, ça fait plaisir, ça.
Voilà, je suis très content de m'être trompé.
Hugo, est-ce que vous commettez une erreur à La Rochelle de ne pas garder Yaya West? Est-ce que tu le regrettes, ça?
Ben, disons qu'il a été bien mis en confiance avec Ogara, hein, qui est un buteur aussi. Il a bien compris, il l'a pas lâché jusqu'au bout. Donc ça, c'est bien, c'est un bon esprit.
Mais le fait qu'il parte à la fin de saison de Adrien, est-ce que tu regrettes son départ?
Ben après, bon, ben, normalement, on récupère.
Antoine Astoy, oui.
T'as compris que tu gagnes. T'as rien à cirer.
Il est tué, quoi. Antoine Astoy qui arrive de Pau, de la section paloise.
Ouais, mais Astoy, il a pas d'expérience, donc c'est pas pareil. Et il a plus d'expérience, West, quand même.
Vous avez qu'à garder West et puis dire Astoy qui s'en aille.
Maintenant, Hugo.
Eh ben écoute, alors déjà, la composition de l'équipe que vous donnez pour la semaine prochaine, vous dites n'importe quoi, parce que...
On n'a pas donné de composition.
Vous avez dit qu'ils sont fatigués, les joueurs. Mais
il est rond, le mec, là, non? T'es rond, toi, non?
Ils vont pas jouer, les joueurs qui ont joué ce week-end. Il va faire jouer les jeunes.
Ah bon?
Et... Eh oui, les gars.
On n'a rien dit. Mais nous, on n'a rien dit.
Non, mais vous avez dit que les joueurs ils sont fatigués, ça va être dur, etc.
Mais forcément,
il va faire jouer les joueurs qu'on joue contre le Stade français, les petits jeunes.
Ouais, bon, et si on dit qu'ils sont fatigués, ça va jusque-là, non? On peut le dire, non, qu'ils sont fatigués.
Bien sûr. C'est bien,
Vincent. Et si on dit qu'ils sont 15 sur le terrain, ça va aussi, ça?
Soit disant que Skelton, il ne veut pas jouer, il était blessé, etc.
Tu sais quoi?
Ton plaisir, c'est de dire que c'est content.
On vous déteste. Je voulais te le dire, Hugo, on vous déteste.
Je t'aime bien, mon petit. Je t'adore.
Tu m'as serré
avec mon copain.
Skelton, il a été bon. Et comment il s'appelle? Aldrit aussi, il était très bon.
Il n'y en a pas beaucoup qui n'ont pas été bons sur le match quand même.
Merci Hugo, c'était un festival.
Merci Hugo.
Voilà les gars, à bientôt.
À bientôt.
Ciao Hugo.
Prochain match.
Donne-nous ton pronostic du coup, toi, puisque tu es plus fort.
La Rochelle va gagner.
On t'appellera quand tu as besoin de parler,
vous m'appelez, vous regardez mon numéro.
Si t'as les numéros du loto, tu les as moi aussi.
Évidemment, maintenant qu'on connaît la fin de la saison, ce débat prend une autre dimension. Bien entendu. Qu'est-ce qu'on a dans le journal moyen qui arrive, Adrien?
Journal moyen, la spécialité, les moscards. Le moscard, concept inventé par Jacques Delmas, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du boudin, expression française mélangée, inversée. Il y en a eu beaucoup cette saison, et il y en a dans ce journal moyen. Et puis également, on va parler d'histoire de Roland Garros. Qui est Roland Garros? On apprend des choses dans le Moscato Show.
Allez, d'abord, croyez-vous au Messi 2.0? Vincent règle le problème sur RMC.
Steve Austin, astronaute, un homme tout juste vivant.
Vraiment, un joueur comme Messi, il a joué 15 ans à Barcelone. Pendant 15 ans, il a fait la même chose à Barcelone. Ça a marché, il arrive ici, c'est différent.
Messieurs, nous pouvons le reconstruire. Nous en avons la possibilité technique.
C'est plus le Messi du Barça. C'est jamais quelqu'un qui a toujours couru dans tous les sens.
Nous sommes capables de donner naissance au premier homme bio-ionique.
Il n'est pas encore au titre de légende puisqu'il va encore continuer.
Steve Austin deviendra cet homme. Il sera supérieur à ce qu'il était avant l'accident.
Il est différent. Ouais. Messi, il est comme ça, il faut s'adapter.
Le plus fort... Le plus rapide, en un mot, le meilleur.
Messi, fait à l'OIR! Messi!
RMC. Moscato, il va te le régler le problème.
Alors Messi nous promet autre chose pour la saison prochaine. Après une année décevante, il a donné une longue interview aux médias argentins TIC Sport, dans laquelle il parle de ses difficultés d'adaptation à Paris. Il ne parle pas que de ça, bien sûr, mais c'est assez intéressant. Est-ce qu'il peut vraiment en être autrement? Est-ce qu'on va voir, selon vous, un autre Messi l'an prochain? Vincent règle le problème. Vous intervenez dans ce débat en composant le 32-16 ou avec Twitter, hashtag RMC Live. Et là, Vincent, là, c'est pas pareil du tout. Nous allons en Argentine. Retrouver
le kiki.
Le riri.
Georges Quirinos.
Et le tonton.
Salut
à tous.
Ça va,
ça va très bien.
Quel plaisir de t'avoir.
Bravo, parce que tu t'es marié il n'y a pas si longtemps que ça.
C'est vrai.
Exactement. Ah, je vois que les infos vont rapidement.
C'est vrai. Oui, c'est passé au journal de 20h.
Si les gens de ta famille n'étaient pas au courant, Georges, eh bien voilà, c'est fait.
J'espère qu'il a mis sa famille au courant.
Un torero argentin. Bravo.
Et donc, Vincent, un petit pronostic, combien d'années de mariage avant le divorce pour Georges?
À 2 ans là-bas à Buenos Aires. Surtout les joueurs de tango sont pas très fidèles et donc je pense que ton couple ne tiendra pas.
Alors parlons. Bienvenue Georges. C'est le Moscato Show, Georges. Si jamais t'avais oublié.
Je suis content de t'avoir, mon kéké, mon riri, mon nono.
Donc Georges, Lionel Messi a reconnu des difficultés à Paris et dans une interview, il s'est vraiment livré. C'est pas si souvent pour Messi.
Ouais, exactement. C'était l'interview événement ici hier en Argentine. 40 minutes en direct, quand même, sur la chaîne de sport la plus importante du pays. Alors, vous savez qu'ici, depuis la victoire en Copa América l'année dernière, Messi, c'est l'intouchable. Hein. C'est le héros national. On a oublié les critiques passées. Donc, c'est un pour tous, tous pour un avant, surtout son dernier mondial. Donc, il a beaucoup été défendu ici tout au long de l'année. Et Messi qui s'exprimait depuis le rassemblement de l'Argentine qui affronte l'Italie demain. Alors, il avait envie de parler, vraiment, on l'a senti très sincère, avec la volonté de transmettre sa frustration et ses raisons d'une saison compliquée. Écoutez.
Ça a été un changement dur à vivre, une année difficile pour être sincère. Après avoir passé toute ma vie au même endroit, ce n'était pas facile à mon âge, parce que une chose est de le faire quand tu es jeune et préparé, mais Moi, je ne voulais pas de ça à ce moment-là. Le premier jour d'école de nos enfants, je me rappelle qu'on a pleuré avec ma femme. On se disait, mais qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qui s'est passé? On ne comprenait rien. Il a fallu aussi que je m'adapte à une nouvelle façon de jouer. Je suis arrivé dans un championnat qui avait déjà débuté. Ensuite, j'ai eu un problème au genou. Et au final, je ne commençais jamais vraiment. Jamais plus de 3 ou 4 matchs d'affilée. J'ai eu le Covid qui m'a laissé des séquelles au poumon. Je n'ai pas pu m'entraîner. Pendant un mois et demi, je ne pouvais même pas courir. Moi, je voulais reprendre, absolument. On s'est un peu précipité et ça a été pire. Et quand ça a commencé à aller mieux, eh bien, il y a eu le Real Madrid et ça nous a tués.
Alors ça c'est pour ses difficultés, il y en a un certain nombre, hein, vous avez pu lister. Il est aussi revenu sur les sifflets après l'élimination en Ligue des Champions.
Oui, des sifflets qui l'ont marqué, ça ne m'était jamais arrivé à Barcelone, a-t-il rappelé. Ça l'a surtout embêté, dit-il, parce que ses enfants l'ont entendu, ils se demandaient mais que vont-ils penser. On sait que sa famille a beaucoup souffert quand la presse argentine le critiquait par le passé, mais sur les sifflets en soi, sur leur motivation, vous allez voir que Messi ne blâme pas les tribunes parisiennes.
Je comprends les supporters. Ils sont énervés quand ils regardent notre équipe, quand ils voient les joueurs qui la composent. Ils ont le sentiment de perdre une année et voient le PSG revivre la même situation encore en Ligue des Champions. L'énervement est compréhensible. Ensuite, les sifflets ciblés contre moi et Neymar, est-ce que je suis d'accord ? C'est passé. Moi, ce que je veux, c'est inverser la situation, ne pas rester avec cette sensation d'avoir changé d'équipe et de ne pas avoir réussi. Ça va être différent. Je serai mieux préparé. Je connais le club, la ville. Je me suis habitué à mes coéquipiers, au vestiaire. Je n'ai pas profité cette année, alors je veux revenir à Paris et retrouver du plaisir.
Alors, vous avez entendu la fin, hein, donc il compte bien laver l'affront en quelque sorte
le de
cette
plaisir,
mauvaise première saison. Vincent, est-ce que tu y crois? Parce qu'il y a l'intention, après il y a la réalisation.
Non, oui, ben voilà, après on ne peut pas savoir s'il va réaliser tout ça. Il a l'air motivé, c'est vrai que pour lui, il a chopé le Covid, on n'en a pas trop parlé, c'est pas trop plein là-dessus. Mais après, je suis persuadé qu'il y a un déséquilibre dans cette équipe. On ne met pas plusieurs... Tu sais, il y a Nicton qui dit on ne met pas plusieurs coqs dans le même poulailler, quoi. Et Messi a toujours été le seul coq. Il a tout le temps, tout le monde a joué, ça a été... Tous les mecs ont été son serviteur. Il l'a bien rendu à l'équipe, il les a fait gagner, il a été le... C'était le taulier, quoi. C'était Hidalgo un peu de Barcelone. C'est tout se passait autour de lui. Il va dans un autre truc, 20 ans passé à Barcelone, tu passes 20 ans dans un endroit, mais quand tu vas dans un autre endroit, mais c'est plus difficile. Tu as 34 ans pour t'adapter, c'est plus difficile. Je le comprends qu'il était perdu. Il amène là-bas, tout était ben voilà, ça roulait, les gosses, c'est des détails, les gosses, machin. Bon, après, il faut pas qu'il nous bassine avec ses grosses, c'est quand même.
Ah, quand même,
j'ai compté les secondes, ça a duré 25 secondes. Non, mais quand même, à un moment donné, les mecs, ils parlent de leurs gosses, on n'en peut plus, quoi. Oui. On n'en peut plus, quand même. Qui parle de foot, ses gosses, sa femme, elle les amène, et puis voilà, qu'est-ce qu'elle fait, sa femme, elle bosse 40 heures par semaine. Non, mais maintenant, c'est le monde dans la mer.
Bon, enfin,
là-dessus, je reviendrai là-dessus, sa femme, elle amène les gosses, et puis voilà. Donc, ça, je l'ai réglé. Déjà, si tu me demande de régler les problèmes, j'ai réglé, voilà. Ça, j'ai déjà réglé le premier problème. Puis, après, je le crois parce que c'est un type qui a toujours fait des efforts énormes. Il a toujours fait des efforts énormes. Donc, je crois à ces champions qui ont toujours fait des efforts énormes et qui peuvent. J'y crois parce qu'il peut les refaire. Tu vois, c'est pas. Il y a des mecs qui ont eu un talent extraordinaire. Lui, s'est construit. C'est Holyfield. Je te l'ai dit 100 fois, Pierrot. Il s'est construit. Il n'avait pas. Physiquement, il était pas bien quand il est arrivé du talent. Je pense qu'il en avait. Parce qu'on n'est pas Messi si on n'a pas de talent à la base. Mais je veux dire, Neymar, c'est pas du tout le même. Neymar, il s'est pas construit. Neymar, il est né, il savait tout faire. Donc après, poum, pam, pam. Après, le plus dur a été la chute. Et on le voit que pour lui, pour se relever, Neymar, il a des difficultés parce qu'il sait pas comment faire. Que Messi. C'est un travailleur, c'est un bosseur. C'est lui qui a pris les responsabilités de Barcelone pendant 15 ans. C'est lui l'autolier qui était devant et qui a dit elle refait, c'est moi. Donc je crois qu'il va se refaire la cerise et qu'il va apporter énormément au PSG. Voilà. Parce que je t'explique d'abord la psychologie,
oui,
Pierrot. Et le problème de sa femme, je le règle. Voilà. Parce que si vous voulez pas me laisser finir mes phrases, vous avez qu'à me le dire.
Là, nous,
c'est réglé. Pour me parler du théorème de Pythagore, que ça me fout.
On doit reconnaître qu'elle est un peu longue, la phrase.
Eric.
Écoute.
Tu as le droit d'avoir des phrases longues, non?
qu'un joueur comme Messi, avec la carrière qu'il a eue, le temps qu'il a passé au Barça, voire l'histoire même qu'il a eue avec le Barça, pas que les titres, hein, l'histoire quand il est arrivé, tout jeune. Enfin, je veux dire, c'est un enfant du Barça. Il est argentin, mais c'est un enfant du Barça. Donc qu'il ait des difficultés à partir comme ça, surtout à cet âge-là, moi, je veux bien croire que c'est difficile de changer de club à ce moment-là de ta carrière, à cet âge-là, quand tu as une famille qui doit te suivre, c'est quand tu avais des habitudes, bien sûr que on veut bien le croire et on peut et ça peut expliquer des difficultés à un moment donné. Après, moi, je pense que le Messi de l'année prochaine, je pense pas qu'on puisse revoir le Messi du Barça dans ses plus belles années, c'est-à-dire celui qui était capable d'éliminer à lui tout seul toute une équipe et à gagner un match possible. Tout seul. Par contre, je le crois capable d'adapter son jeu à des nouvelles responsabilités à son âge et à son corps et à des nouvelles responsabilités, c'est-à-dire on compte plus sur lui pour gagner puisqu'il y en a un autre sur qui tu comptes pour gagner.
Ouais, mais est-ce qu'il est capable
de jouer? Donc de faire croquer, c'est-à-dire de changer son jeu pour être peut-être plus loin du but et faire croquer Mbappé, voire un autre si Neymar reste ou si ils choisissent de prendre un attaquant un peu plus travailleur, un peu plus dans un profil de buteur. Moi je veux bien croire que d'abord tu sais quoi, mais... on va parler de Nadal tout à l'heure avec sur la terre battue, ben c'est pareil. Ouais. Mais si tu l'enterres pas tant qu'il est sur le terrain, moi je pense que ce mec là d'abord il va avoir une revanche à prendre sur sa saison et ensuite il est capable de faire évoluer son jeu pour être utile.
Mais est-ce qu'au Barça, est-ce que la dernière saison au Barça il a été bon? C'est mon interrogation moi avant de.
Il a été décisif. Moi c'était bon, c'était le grand Messi comme l'a raconté Eric déjà.
Mais est-ce qu'il a été meilleur cette année que au Barça l'année d'avant? C'est ma question.
Georges, c'est vrai qu'avec l'Argentine, longtemps il a eu du mal parce que l'Argentine n'était pas l'équipe du Barça et pendant un moment il a eu du mal à adapter son jeu en sélection et il est arrivé.
Exactement. Juste pour répondre à ce que disait Denis, à Barcelone, il était le leader seul de l'attaque finalement. Donc c'est difficile de comparer. Avec l'Argentine, il a changé. C'est déjà pas le Messi qu'on voyait dans ses meilleures années à Barcelone, celui que l'on voit actuellement. C'est un Messi. C'est un Messi beaucoup plus collectif qui fait jouer les autres. La sélection est beaucoup moins dépendante de lui. Donc il a déjà changé son jeu. Donc je pense que ce qu'il montre avec la sélection argentine, il peut peut-être le montrer avec Paris. Et surtout la persévérance qu'il a montré avec l'Argentine. Il est en situation d'échec également ici. C'est quelqu'un d'hyper professionnel qui n'aime pas être dans une situation d'échec, comme il le dit. J'ai pas envie qu'on retienne que j'ai changé de club et que je n'y suis pas arrivé. Moi, c'est en ça que j'ai envie de croire à Messi.
Il a pas la même
surtout qu'il y a toujours eu ce dilemme.
Alors, Denis, il a pas la même conscience sûrement que Neymar. Donc, non mais c'est vrai, sur ce plan-là, j'ai l'impression qu'il a une revanche à prendre. C'est un gars qui a beaucoup d'orgueil. Ceux qui le connaissent, ils rapportent qu'il a un gros caractère, que c'est pas un mec si facile que ça. Donc, je pense quand même qu'il a un orgueil qui
c'est pas d'aricole, hein. Il paraît, c'est pas un mec qui rigole beaucoup.
Ce qui me fait dire que. Voilà, je pense que la première année, il l'a pris comme une punition. Là, le mot qui sort, qui me fait plaisir, c'est le plaisir. Il parle de plaisir. Donc, quand ça veut dire que quelque part, il a envie de rejouer, de faire ce qu'il a toujours fait. En fait, je pense qu'aujourd'hui, cette saison, il a traversé, mais sans vouloir véritablement la jouer, quoi.
C'est ça, il a subi. Non, c'est pas subi. Pas vouloir, c'est qu'il était.
Il a subi tous les matchs, quoi. Complètement.
C'est ça qui est quand même inquiétant. C'est-à-dire que moi, j'apprécie beaucoup
la
sincérité. Alors, ça, moi, j'aime beaucoup. Les grands champions qui reconnaissent qu'ils ont eu des difficultés.
Oui, ça c'est déjà une.
Ça a plutôt tendance à me mettre en confiance, notamment pour la saison prochaine.
C'est l'application.
Parce qu'il pourrait très bien ne rien dire.
Après, on a une garantie.
Mais le problème.
Est-ce qu'on peut dire qu'il était à constance de la
frappe? C'est qu'il a quand même aussi dit que c'est une erreur de casting monumentale. C'est-à-dire qu'il n'avait pas vraiment envie de venir.
Oui, mais,
alors,
mais
tu pouvais, t'en douter. Mais là, il le dit, donc on n'en doute même plus.
Il a dit qu'il est parti de Barcelone, déjà.
Mais là, c'est très, très clair. Il ne voulait pas être là.
Ça y est, Messi, c'est fait, Pierrot. Les enfants sont bien à l'école, tout le monde est content. Ça va le faire, il va enchaîner.
C'est quand même fou d'avoir des états d'âme à ce point-là.
Bah oui, mais changement d'habitude, ça peut arriver. Déménagement, changement d'école, c'est dur.
Alors, dans un instant, c'est le journal moyen sur RMC, puis à 17h. Débat Giroud et l'équipe de France, à tout de suite.
RMC, le meilleur du Super Moscato Show.
Pierre Dorian, Adrien Aigou.
Le Super Moscato Show continue. Débat sur Olivier Giroud et l'équipe de France après les infos de 17h. Mais d'abord, c'est l'heure du journal moyen sur RMC. Ouais.
À la une du journal moyen aujourd'hui sur RMC. Mais ça va nous apprendre. Nous nous sommes moqués d'auditeurs. On n'a pas été beaucoup plus forts que. Du Moscard. Ben oui.
Ouais, mais c'est pas grave.
Oui, mais on se moque quand même avant.
On a le droit.
Triplé de Moscard dans le Moscato dans ce week-end sur RMC. Et puis 16h55, première citation du Kikadi du jour. Vous écoutez RMC, c'est le 1221e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show.
En direct de la rédaction du Super Moscato Show,
c'est le journal moyen
d'Adrien Aigouin.
Triplé de Moscard, le premier. Alors, le Moscard, je vous rappelle, expression française mélangée inversée. Dans l'after, le premier, c'est Walid Acharchour qui nous parle d'Olivier Giroud.
Après, classe mondiale, pas classe mondiale, world class, chacun se fera son opinion, mais moi, ce qui me frappe aux yeux, c'est que...
Ça fait mal, Marie, c'est pas qu'il y a un problème à l'œil.
Surtout pas, Marie. Ça m'a fait mal rien que de l'entendre, tu vois.
Les courses RMC, une des émissions favorites de Pierrot Dorian. Dans les courses avec Lionel Charbonnier et Dimitri Blanc-L'œil, on parle d'un propriétaire toujours bien habillé. Comment on dit ?
Je crois qu'il est encore plus heureux de pouvoir s'illustrer aussi bien dans le trot, bien sûr, mais surtout à l'obstacle. Mmh. J'ai cette impression-là.
Ouais, ça lui convient bien. Je l'ai croisé dimanche dernier. Il était habillé à quatre épingles. Il était tout beau, Pierre Pilarski. Il avait la forme. Bah,
toujours.
Habillé à quatre épingles. Ça ne marche pas. Non. Et puis dans l'intégral sport, Florent Serra, membre de la Dream Team Tennis, nous parle de Carlos Alcaraz.
Mais il fait partie, bien sûr, pour moi, des 3-4 favoris de ce tournoi, vu ce qu'il nous a montré. Et son évolution, on l'a dit, depuis un an, qui est énorme, parce qu'il brûle toutes les barrières.
Oh, il brûle toutes les barrières, oui, chez Vincent. C'est interdit de brûler des barrières.
Ouais. Eh bien, voilà. Mais ça arrive, parce que c'est en bois, les barrières.
Service après-vente du Kikadi. Alors, Kikadi de vendredi. Je pose une question aux auditeurs, question culture, sport, culture générale. Dans quelles circonstances est décédé Roland Garros ? La bonne réponse était, j'aurais accepté plusieurs réponses possibles, abattu en avion lors d'un combat aérien. Si les auditeurs avaient su vraiment, ils auraient pu dire le 5 octobre 1918 au-dessus des Ardennes. Ouais. J'en demandais pas autant.
Alors qu'il s'était évadé.
Et après, il a été abattu.
Il a été abattu, voilà. Ouais.
Écoutez les réponses des auditeurs et on s'est moqué. Écoutez Eric Dimeco, ouais. Il se moque, Eric aussi. Rappelez-moi dans quelles circonstances Roland Garros est décédé.
Oh. Crise cardiaque.
Non,
oh, merde.
Un accident de voiture.
Ah non, oh, les gars.
Oh. Décapité.
Oh là, c'est la phase.
Nickel.
La guerre,
j'accepte la guerre,
parce que là sinon on part trop loin. Édito d'Éric Dimeco sur la situation culturelle de la France. La France se va mal, alors là, quel mec de culture hein. Alors on s'est moqué tous, hein. Il n'y a pas qu'Éric, mais bon, Éric dit la France se va mal. On n'aurait pas dû forcément se moquer. Écoutez la suite, vraiment faites silence, le Moscato Show va éclairer ses auditeurs sur Roland Garros.
Alors cette année, il s'est évadé et il est mort en avion après un abattu.
Il est en avion.
Méditerranée.
Il est mort en avion.
Non, c'est Mermoz en Méditerranée.
Il est mort en avion lors d'un combat aérien le 5 octobre 1918 et c'était pas en Méditerranée. Voilà. Donc musique s'il vous plaît. Voilà, Moscato et Dimeco sont nos.
Ça va, c'est Patrick, je le reconnais.
Et Stéphane Bern, les deux, nous apprennent des choses sur l'histoire de France. Éric nous dit, il est mort en Méditerranée. Vincent lui répond, mais non, il est pas mort en Méditerranée, c'est Mermoz qui est mort en Méditerranée.
Non,
c'est pas fini. On écoute la suite, on repart du début, on écoute la suite.
Alors, il s'est évadé et il est mort en avion après un abattu.
Il est en avion. Il est mort en avion.
Non, c'est Mermoz en Méditerranée.
Il est mort en avion lors d'un combat aérien le 5 octobre 1918 et c'était pas en Méditerranée.
Non, c'est 4-3
pour l'équipe Vincent, Denis et Mixel. Eric dit la France va mal et puis tombe à côté direct.
Ouais, c'est Mermoz.
Donc Vincent ajoute, c'est Mermoz. On a retrouvé sa gourmette en Méditerranée. Eric ajoute, ah oui, c'est Mermoz, c'est vrai. Donc là, les deux sont d'accord. Ils sont tombés d'accord. Bon, tout ça n'est pas tout à fait juste.
Moi, j'adore le bouquin de Roland Garros.
Jean Mermoz, aviateur.
Le petit prince.
Je fais ça pour les enfants qui nous écoutent. Jean Mermoz, aviateur, a disparu dans l'océan Atlantique. Pas du tout en Méditerranée. En 36, on n'a jamais retrouvé sa gourmette. En revanche, j'ai vérifié les livres d'histoire. On a retrouvé une gourmette un jour.
Bien sûr.
Le 7 septembre 1998, un patron de pêche marseillais en plus. Bravo Eric.
Tu racontes en 98.
A retrouvé en Méditerranée dans ses filets la gourmette d'Antoine de Saint-Exupéry, disparu le 31 juillet 44 au large des côtes marseillaises en Méditerranée.
C'est improbable quoi, une gourmette c'est les lits dans une bateau.
C'est parce qu'on ne savait pas où il avait été abattu. Ils ont retrouvé une gourmette dans un filet de pêche.
Après
c'est incroyable. Une vanne, quelqu'un qui a gravé une gourmette.
Non,
c'est sûr.
Les Marseillais sont amateurs, mais ils n'auraient pas pensé.
Marseille, c'est un truc.
Non, non, mais c'est magnifique.
Et donc, ils ont foutu ça dans l'eau.
Excusez-moi sur Mermoz,
excusez-vous auprès des auditeurs
sur Mermoz.
Cette séquence vous était offerte par la Société des Historiens de France. Sans transition, les valeurs du rugby.
Je me suis
17h18 samedi, incroyable. Top 14, l'UBB bat le Loup 42-10. Avec cette victoire, c'est mathématique. L'UBB assure sa qualification en phase finale dans les 6 premiers. C'est mathématique. Mais je crois que Christophe Furios, le boss de l'UBB, a un problème avec les maths. Quand il était petit, c'était pas son truc, les maths. D'abord, juste après le match sur Canal+, le journaliste lui dit bravo. En plus, franchement, c'est large, hein. La qualif est assurée en phase finale.
Je sais pas si on est qualifié. Hein. La Rochelle, s'il gagne avec deux points de deux matchs,
non.
De bonus offensif.
Non.
Non, mais deux matchs, c'est
fait. Ouais, voilà, c'est fait. Ouais, pas sûr.
Le journaliste dit comptablement, je crois que c'est fait. Après, cinq minutes après, il se présente en conférence de presse. Première remarque du journaliste de Sud-Ouest. Il lui dit bah, bravo quand même, vous êtes qualifié pour les phases finales. Ça, c'est fait.
Non, on n'est pas qualifié. Pour moi, on n'est pas qualifié.
Si.
La Rochelle est à 10 points derrière nous.
Mais non, mais.
Il faut pas dire de conneries, Johan. Je te l'ai dit hier. tu persistes. Tu as 6. Ouais, je sais pas. Laisse-moi ce doute. C'est mathématique. T'as raison, alors, Johan. Excuse-moi pour t'avoir engueulé.
Voilà, il se rend compte de sa dinguerie.
Il est temps d'arriver à la fin de la saison.
Je crois qu'il est tellement tendu qu'il est persuadé depuis le début qu'on lui parle de la deuxième place et de la place de demi-finaliste.
Il confond deuxième
et qu'il est complètement.
C'est ça.
Mais bon,
c'est ça, parce qu'il doit suivre les points. Il doit suivre les points tous les jours. Il doit les relire, les relire.
Ça fatigue ce métier quand même.
Oh, ça rend fou, quoi. C'est un métier de dingue.
Excuse-moi, Johan. Je t'ai engueulé.
On revient tout de suite dans le Super Moscato Show avec Olivier Giroud. On va en débattre jusqu'à ce qu'on ait la liste de Didier Deschamps, de toute façon, d'Olivier Giroud.
C'est quand la liste? On l'a pas, c'est octobre, début novembre.
Ouais,
voilà.
C'est ça, au courant du mois d'octobre. Giroud et l'équipe de France, la révolution au PSG, Genesio, meilleur entraîneur de la saison. Voilà ce qui vous attend tout de suite sur RMC.